Luc chapitre 2. En ce temps-là parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinus était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur qui est le Christ le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. » Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui t'est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte et y trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Nous commençons un survol de l'évangile de Luc. Et nous avons fait correspondre les premiers chapitres au mois de décembre pour revoir l'histoire de Noël. C'est une histoire bien connue. Mais en relisant ce texte et en discutant un peu en famille, je me demandais si on connaissait si bien que ça l'histoire de Noël. En tout cas, par rapport au texte biblique, nous les hommes, nous avons ajouté pas mal de choses. Peut-être si je vous posais quelques questions. On verra si vous connaissez vraiment l'histoire de Noël. Est-ce que Marie et Joseph ont débarqué à Bethléem après un long voyage et le jour même, fatigués de ce long voyage, ils ont cherché un endroit et là, elle a accouché? Pas tout à fait, hein, le verset dit que le temps où elle devait accoucher arriva. Donc certainement, ils étaient là à Bethléem pendant quelques mois même. Est-ce que Marie a voyagé sur une âne? On n'en sait rien. Est-ce que Jésus est né dans une étable? C'est pas dit. On l'a couché dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour dans l'hôtellerie. Même le mot grec pour hôtellerie est traduit lieu ou bien chambre d'invité. Alors on peut pas dire qu'il y avait une étable, on ne sait pas. Est-ce que c'était le mois de décembre? Ça, on n'en sait rien. Bien sûr, rien ne nous empêche d'essayer d'imaginer comment les choses se sont passées quand les détails nous manquent. Mais si on s'en tient au texte, les détails que nous donne Luc sur la naissance même de Jésus-Christ sont relativement sobres. Mais justement, c'est pour fixer notre attention sur les détails qui y sont. Et c'est ce que nous voulons faire ce matin. Et notamment dans ce passage que nous avons lu, Luc accorde beaucoup d'importance, un regard sur les bergers. Seul l'évangile de Luc fait mention des bergers qui sont venus, mais dans les versets que nous avons lus, quasiment dans les vingtaines de versets, ce sont eux les personnages principaux. D'un point de vue d'un historien comme Luc, d'un point de vue d'un journaliste, les premiers témoins d'un événement, eh bien, c'est quelque chose d'être les premiers arrivés, les premiers témoins. Même chez nous, il y a une certaine fierté pour chacun d'être le premier qui soit au courant d'une chose, ou le premier sur place, quand c'est un grand événement. Et à qui Dieu accorde-t-il ce rôle de premier témoin, cette place d'honneur? Eh bien, il accorde à ses bergers. Ils vont être les premiers à recevoir le faire-part de la part de Dieu. Ils vont être les premiers à pouvoir visiter la maternité. Ils vont être les premiers évangélistes à raconter la bonne nouvelle autour d'eux. Et c'est très intéressant que Luc met l'accent sur ces bergers. Nous voulons regarder un peu plus ces bergers ce matin. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces bergers? Voyons ce matin, ils n'étaient pas glorieux, ils n'étaient pas bêtes, et ensuite ils n'étaient plus jamais pareils. Voilà, ces bergers ne sont pas glorieux, pas bêtes, et plus jamais pareils. Tout d'abord, ce qu'on peut dire de ces bergers, ils ne sont pas glorieux. Nous faisons connaissance avec eux en verset 8, il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Autant les anges sont des êtres très glorieux, on a chanté la gloire de Dieu ce matin pendant la première partie du culte, donc on va voir les anges glorieux, mais autant les anges sont glorieux, autant les bergers, c'est tout le contraire. Il n'y a rien de plus normal, rien de plus ordinaire que des bergers qui s'occupent de leurs troupeaux. Aujourd'hui, tout comme à l'époque, encore plus à l'époque, les bergers, ils n'étaient pas connus pour leur beauté, pas connus pour leur talent, leur salaire. Ils n'avaient pas fait bac plus 8 ou plus 12 pour ce métier. Rien dans le texte, rien à cette époque, indique que les bergers avaient une mauvaise réputation. Mais ne serait-ce qu'un siècle plus tard, nous trouvons dans les commentaires juifs que le métier du berger serait mal vu, méprisable. On peut comprendre un peu le paysan de campagne, c'est pas le genre de personne qui même remplit nos églises ou encore nos universités, nos réseaux sociaux. Voilà ces bergers. Et voilà les premiers à qui Dieu va s'adresser et envoyer la nouvelle. Maintenant, imaginons que vous êtes l'agent de casting, l'agent de publicité pour Jésus, et votre mission, c'est de faire de lui l'homme le plus important de toute l'histoire, l'homme qui va être suivi par des millions de disciples, l'homme qui n'arrête pas de changer des vies encore aujourd'hui, 2000 ans plus tard. Vous êtes l'agent qui doit faire sa pub, qui doit le présenter au monde. Comment vous allez vous prendre? Quelle personne faut-il dans son entourage? C'est évident, vous n'aurez pas fait comme Dieu l'a fait. Mais c'est là tout le message aussi de Noël. Dieu, en allant vers les bergers, il est en train de renverser les valeurs de ce monde. Normalement, on accorde le meilleur accès aux meilleures places, aux meilleures personnes. Comme les premiers rangs d'un spectacle, c'est les rangs les plus chers. Ou les premières places dans certaines rencontres, des réunions, on va les accorder à des personnes nobles, des dignitaires. La première classe dans l'avion, j'ai vu ça récemment. La première classe dans l'avion, c'est toujours à l'avant de l'avion, c'est toujours les premiers à monter et les premiers à descendre. Et on les envie un peu, nous les autres, les gens en première classe. Et est-ce que c'est comme ça que Dieu fonctionne? Eh bien non, l'accès à Dieu ne fonctionne pas comme ça. L'accès au ciel ne fonctionne pas comme ça. Ce n'est pas le meilleur accès accordé aux meilleures personnes. Si Dieu voulait favoriser les riches, les grands, les réussis de ce monde, il aurait donné rendez-vous dans un salon privé, un appartement chic, centre-ville, mais il donne rendez-vous aux bergers autour d'une crèche. Et ça, c'est difficile pour nous de basculer dans cette manière de penser de Dieu. Même après des années de vie avec Dieu, on a du mal à penser comme lui. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois ici que Dieu a surpris tout le monde en choisissant un petit berger dans la ville de Bethléem. Le prophète Samuel, un jour, il devait oindre un roi, et lui aussi, même avec toutes ses années de service et d'expérience avec Dieu, il avait quand même tendance à penser que c'est le plus grand, c'est le plus beau, c'est le fort que Dieu, vers lequel Dieu met son regard. Et non, c'était le berger qui gardait son troupeau, notamment le roi David, le futur roi David. Donc vous voyez, Luc commence son évangile en montrant vraiment tout le projet de Dieu, toute la pensée de Dieu. En invitant les bergers, Dieu est en train de faire exactement ce que Jésus va enseigner plus tard dans cet évangile. Où il dit, lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, invite des estropiés, invite des boiteux, invite des aveugles. Pas des riches, ceux qui peuvent vous rembourser. Et partout dans cet évangile, Luc met l'accent particulièrement sur ce genre de personnes, des personnes pas glorieuses. Les lépreux, les publicains comme Zachée, les femmes de mauvaise vie, c'est à eux vers lesquels la bonne nouvelle va s'adresser. Et ça commence ici avec des bergers. D'ailleurs, en relisant ces versets, l'annonce de l'ange, ce faire part, il y a une phrase dans le faire part qui finalement est bizarre quand on y pense. En verset 11, il dit, c'est qu'aujourd'hui dans la vie de David, il vous est né un sauveur. Il vous est né. Dans un faire part, on ne dit jamais, il vous est né. Hein. David et Anne, ils ont pu envoyer un faire part. Voilà, Jarod est né. On ne dit pas, il vous est né. Il y a plusieurs faire part affichés au fond de la salle. On ne dit pas, il vous est né. On dit, il est né. Il est né plutôt aux parents. Mais là, il vous est né un sauveur. Il vous est né un sauveur qui est Christ. Vous, c'est des bergers, cet enfant est né pour eux. Et puis Dieu, pour les interpeller, il a mis ce petit enfant dans un cadre qui leur est familier, notamment cette crèche à Bethléem. L'ange n'a pas dit, vous allez trouver l'enfant couché dans un hôtel 5 étoiles, entouré d'étoffes somptueuses. Vous savez ce que les bergers auraient dit si c'était ça l'annonce, si c'était ça les indications? Ils auraient dit, eh ben, n'y allons pas. Restons ici, n'y allons pas, parce qu'ils ne vont jamais nous laisser entrer, nous, dans cet hôtel 5 étoiles. Nous, les bergers que nous sommes. On est bien d'accord, ils ne venaient pas de prendre la douche. Ils n'étaient pas en mesure d'apporter l'or, l'encens, le myrrhe comme cadeau. Non, le rôle des bergers ici, justement en n'étant pas glorieux, le rôle des bergers, c'est une illustration parfaite de la pensée de Dieu, de ce qu'il veut faire. Paul explique en 1 Corinthiens chapitre 1 que Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Il a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire au néant celles qui sont. Et puis, c'est une invitation à nous tous de nous retrouver comme les bergers, et de pouvoir se dire, oui, moi-même, je ne suis pas glorieux. J'arrête de toujours vouloir être en première classe, de prouver aux autres et à Dieu que je mérite d'être dans cette première classe, parce que finalement, non, je suis comme un berger, mon passé n'est pas glorieux. Mais dès l'instant qu'on se reconnaisse dans cette catégorie de personnes, eh bien oui, il nous est né, vous est né un sauveur, qui sera le sujet d'une grande joie. Donc, Luc met tout d'abord l'accent sur des bergers, qui sont des gens ordinaires, des gens pas glorieux, pas des premières places, et pourtant c'est à eux que Dieu accorde la première place dans sa grâce. Nous voyons maintenant, en deuxième point, que ces bergers, ils n'étaient pas glorieux, ils n'étaient pas bêtes non plus. Ils n'étaient pas bêtes. Les voilà dans les champs, c'est la nuit, peut-être ils se sont endormis. Peut-être ils discutent ensemble, mais d'un coup, la nuit explose avec cette lumière éblouissante, cette gloire du Seigneur qui rayonne autour d'eux. Et puis l'annonce de l'ange, et puis se joint à cet ange, une multitude de l'armée céleste qui loue Dieu. Et puis les anges retournent au ciel, et tout redevient normal, la nuit comme avant. Alors que les bergers viennent de vivre ça, qu'est-ce qu'ils font avec ce qu'ils viennent de vivre? Il faut dire qu'ils ne sont pas habitués à de telles expériences. Alors, ils auraient pu dire, mais est-ce qu'on a rêvé tout ça? Est-ce qu'on a... C'était une hallucination. Peut-être faut-il juste se rendormir et espérer que le sommeil porte conseil et que demain matin, on aurait des pensées plus claires. Mais l'ange leur avait donné des instructions, l'ange leur avait donné un signe. Voici à quel signe vous le reconnaîtrez, vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et donc, ces bergers, ils n'étaient pas bêtes parce qu'ils ont dit, bon, allons voir, allons vérifier, nous allons voir cette chose. Ils avaient un signe précis, concret. Il ne doit pas y avoir 36 bébés couchés dans des crèches à Bethléem ce jour-là. Si c'était une hallucination, s'ils l'avaient imaginé, ils vont vite se rendre compte. Ils pourraient rapidement vérifier. La Bible dit, cherchez et vous trouverez. Et c'est ce que les bergers ont fait. Ils ont cherché et ils ont trouvé. Et ils ont trouvé les choses exactement comme l'ange leur avait dit. Et pour eux, c'était la confirmation que finalement, tout ça, c'est bien vrai. Tout ça mérite d'être suivi, d'être accepté, d'être vécu. Si l'ange disait vrai au sujet de la crèche, ce détail est finalement fort, fort extraordinaire. Si l'ange disait vrai au sujet de la crèche, eh bien certainement il disait vrai au sujet du bébé qui était dans la crèche, lorsqu'il a décrit comme le Christ, le Seigneur. Vous voyez, ces bergers n'étaient peut-être pas des grands intellectuels, mais ils n'étaient pas bêtes. Ils sont allés voir, ils sont allés vérifier, ils ont suivi les instructions qu'ils ont eues de l'ange. Et de notre part, si on ne veut pas être bête, une démarche sage, c'est de voir pour soi-même ce que dit la Bible, confirmer si ce que dit la Bible est vrai. Et en cela, nous avons quelque chose de fort, formidable dans la Bible, dans la foi chrétienne. La foi chrétienne, elle est la plus vérifiable de toutes les religions. Et c'est parce qu'elle est vérifiable qu'elle est véritable. On peut vérifier les propos de la Bible. Luc lui-même, il écrit comme ça, il écrit avec plein d'indications, plein de signes pour que ses premiers lecteurs puissent confirmer. Il avait dit dans son introduction, j'ai fait des recherches exactes auprès des témoins oculaires pour transmettre ces choses. Même dans ce chapitre, on voit qu'il nous permet de situer certaines choses. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinus était gouverneur de Syrie. Tous ces personnages-là donnent un ton de vrai, d'historique, à son récit, Quirinus, César Auguste, Syrie, tous ces lieux et ces endroits, on se retrouve dans l'histoire. Et tout ce qu'il raconte, les personnages, les bergers, Marie, Joseph, Vincent en a parlé la semaine dernière, à quel point c'était des personnes qu'on pouvait, ils pouvaient aller voir et avoir l'histoire d'eux-mêmes pour vérifier. Allons donc voir si c'est vrai ou pas. On peut aller demander à ces bergers, on peut aller demander à Marie, on peut aller demander à ces témoins. Et c'est ça, là, toute la différence avec l'Évangile, avec cette bonne nouvelle, avec cette Bible que nous avons. Elle annonce quelque chose de vrai et d'historique que nous pouvons examiner et croire. L'ange n'a pas dit... Je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Soyez désormais gentils et polis avec vos voisins. Ça, c'est pas une bonne nouvelle. Ça ne peut pas être vérifié. Oui, c'est pas quelque chose qui se vérifie ou pas. C'est juste un conseil. Soyez gentils avec vos voisins et voilà. Mais la plupart des religions fonctionnent comme ça. C'est plutôt des conseils. C'est pas quelque chose qui se vérifie. C'est pas un événement qui bouleverse notre monde. Mais la venue d'un sauveur qui est né pour nous, ça change tout. Alors ces bergers n'étaient pas bêtes d'aller voir, au moins d'aller voir. Et en me voyant, ils ont dit oui, c'est ça. Nous aussi, certaines questions se posent, mais Dieu nous donne des signes, des indications. Et à nous de vérifier, de confirmer. Quand on pense, pour nous le signe par excellence, c'est Jésus-Christ lui-même, sa vie, sa résurrection. C'est le signe par excellence que Dieu nous donne. de sa présence, de son amour pour nous, il est descendu sur terre. Et chacun devrait se poser cette question, mais comment expliquer ce phénomène qui est Jésus-Christ dans l'histoire? Comment expliquer sa vie? Comment expliquer l'influence qu'il a eue sur notre monde? Comment expliquer l'influence, l'impact qu'il a eu sur son entourage? C'est-à-dire, il y a des réalités historiques qui ne peuvent pas être ignorées. Et la vraie bêtise, c'est de dire que tout ça, ça a été inventé, ça a été imaginé par des gens simples d'esprit. Non, ça c'est être bête. Ce qu'on peut faire, comme ces bergers, c'est d'aller voir. Et vous allez voir que c'est bien vrai et c'est bien merveilleux. Donc ces bergers, ils n'étaient pas très glorieux, mais Dieu s'est adressé à eux. Ils n'étaient pas bêtes, ils sont allés voir. Et enfin, nous allons voir maintenant qu'ils n'étaient plus jamais pareils. Leur vie, à partir de ce moment, cette rencontre avec Jésus-Christ, n'est plus pareille. On le voit dans les versets qui suivent. Ils ont été transformés, leur crainte a été transformée en joie, leur nuit a été transformée en lumière. Et puis après, ils ont raconté à tout le monde ce qu'ils ont vu. Et les gens étaient étonnés de tout ce qu'ils disaient les bergers. Je ne sais pas si ces bergers étaient particulièrement éloquents, sociables. En tout cas, quand on passe toute sa vie avec des animaux, comme des brebis, parfois on peut très bien préférer leur compagnie que celle des hommes. Mais les voici en train d'annoncer la bonne nouvelle à tout le monde, de parler à tout le monde. Ça doit quand même changer pour un berger. Évidemment, tout le monde était étonné de voir ces bergers vivre comme ça. Donc vous voyez, ils ne sont plus pareils. Ils ont découvert. Maintenant, ils ont la joie. Ils ont une lumière en eux. Ils ont un courage. Ils retournent chez eux, mais leur vie ne sera jamais plus pareille. Puisque maintenant, ils connaissent le salut, cette bonne nouvelle annoncée par l'ange. Ils l'ont vécu eux-mêmes, personnellement. Ils sont joyeux. Et le dernier verset dit qu'ils se retournent glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Voilà, c'est cette vie remplie de louanges, glorifier Dieu, c'est ce qui se passe à toute personne qui rencontre véritablement le Sauveur. Et même ce que je trouve beau, que même maintenant, une chose qui va être nouvelle, qui va être plus pareil pour ces bergers. Maintenant, leur métier va prendre tout son sens. Parce que vous savez, de nombreux commentateurs, de nombreux historiens estiment que la présence des troupeaux à Bethléem servait notamment au sacrifice à Jérusalem. Ces troupeaux à Bethléem certainement servaient au sacrifice à Jérusalem. Parce que Jérusalem était une ville proche. Et puis vous avez les troupeaux à Bethléem. C'est comme si vous avez un élevage de dindes aux États-Unis, vous savez que ces dindes sont destinées à être mangées à Thanksgiving. C'est sûr et certain. Si vous êtes berger dans les alentours de Jérusalem, vous savez que les troupeaux, les brebis, sont destinés à l'autel, à un sacrifice sur l'autel. La quantité de sacrifices qui a été offert à Jérusalem était impressionnante, surtout lors des fêtes. Donc, ces troupeaux, c'est sûr, ils étaient destinés à un sacrifice. Et donc, ces bergers, les voilà, ils vont pouvoir maintenant enfin comprendre leur métier, qui va prendre tout son sens. On comprend pourquoi Dieu voulait les inclure dans ce faire-part, dans cette invitation autour de la crèche. Peut-être plus que bien d'autres, les bergers qui s'occupent des brebis, ils sont bien placés pour comprendre la raison de la venue de Christ. Cet enfant dans la crèche, eh bien, lui-même se destine à être un agneau, une brebis qui va être sacrifiée. Est-ce que ces mêmes bergers vont être là quelques années plus tard? Quand Jean-Baptiste, dont on a fait connaissance la semaine dernière, quand Jean-Baptiste annonce, pas loin de là, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde en voyant Jésus. » Peut-être ces bergers, Un peu plus tard, s'ils font un tour à Jérusalem, ils vont entendre Jésus, cet enfant grandi maintenant adulte, ils vont peut-être l'entendre dire « Je suis le bon berger, je donne ma vie pour mes brebis. » Encore, c'est la spéculation, mais peut-être les plus jeunes parmi eux, parmi ces bergers, sont-ils devenus des pasteurs, des anciens dans les premières églises en Judée? En tout cas, pour que Luc puisse transmettre leur histoire, c'est sûr qu'ils ont dû raconter ça quelque part. Alors vous voyez, leur vie, leur métier prend tout son sens maintenant, en comprenant que Christ est le bon berger qui donne sa vie comme une brebis, comme un agneau, et qui nous appelle, nous, à le suivre. Et beaucoup vont s'impliquer dans l'œuvre de Christ, dans l'Église, en tant que berger. Mais c'est ce que Dieu nous offre à chacun ce matin encore. Notre vie prend tout son sens avec Jésus-Christ. Jamais plus pareil une fois qu'on l'a rencontré. Pas besoin d'être glorieux et grand aux yeux de ce monde. Tel est le message des bergers. Ce Jésus, ce Seigneur, qui était plus glorieux que les anges, eh bien, il a quitté sa gloire, il a donné sa vie pour nous, pour être notre berger, pour être notre sauveur. Prions.